Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du Goût d'entreprendre, l'émission qui donne la parole aux créateurs d'entreprises. Nous vous proposons de voir Toulouse autrement grâce au guide de PIDOC. Stéphane Graffogel est le fondateur de cette agence qui propose, vous allez l'entendre, des visites insolites de la Ville Rose. C'est un amoureux de l'Occitanie qui vient de nous rejoindre dans le Goût d'entreprendre. Bonjour Stéphane Graffogel.
Bonjour Doris.
Vous êtes fondateur de l'entreprise PIDOC. Votre agence s'est installée à Toulouse, au centre du PIDOC, au cœur du PIDOC. Et vous êtes spécialisé dans les visites décalées de Toulouse et des grands sites d'Occitanie. On peut dire, Stéphane, que vous êtes un expert du tourisme.
On peut le dire maintenant, puisque ça va faire 20 ans que nous existons. Donc moi, à l'origine, j'étais guide et en fait, j'ai souhaité fonder une entreprise liée à ces domaines-là, du tourisme, en particulier de guide et d'accompagnateur.
Ouais.
On intervient, notre particularité, sur tout le territoire, certes sur l'Occitanie, mais l'Occitanie, c'est grand, c'est tout le sud de la France, le nord de l'Italie et le nord de l'Espagne. Donc c'est un grand pays, on va dire, pour le coup, qui effectivement est sur trois pays distincts. L'entreprise a été créé dans le but aussi de faire redécouvrir, se réapproprier entre guillemets le patrimoine toulousain,
la culture,
et la culture locale, dans l'esprit de dire voilà, nous sommes des médiateurs culturels, nous sommes des facilitateurs, on permet à tout un chacun de se réapproprier son patrimoine de façon, j'allais presque dire, homéopathique, au travers des petites histoires croustillantes, des anecdotes. C'est vraiment dans l'esprit, si je puis le citer, Stéphane Bern, quoi, au niveau de la culture et du patrimoine. Voilà.
Alors vous êtes le Stéphane Bern de Toulouse ?
Oui, si on peut dire.
Tête couronnée ou pas ? Non, rien à voir.
Rien à voir.
Alors, donc, vous n'êtes pas un guide comme les autres. Alors, ça veut dire quoi, un guide différent, des visites décalées ? Parce que, bon, des visites de Toulouse, on sait que ça existe, sur des demi-journées, des temps
bien
très
évidemment.
Courts.
Mmh.
Voilà. Vous, qu'est-ce que vous proposez de différent ? Quels sont vos atouts ?
Alors, nos atouts principaux tournent autour du fait que, finalement, nos visites sont personnifiées. C'est-à-dire qu'en fonction de nos guides, d'acquaintances particulières, d'affinités qu'ils ont avec une thématique, on développe ces thématiques-là, qui permet qu'en fait, tout un chacun va y retrouver un intérêt parce que c'est tourner autour de l'anecdote, des petites histoires croustillantes. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de la grande histoire au travers de la petite.
D'accord. Alors, c'est-à-dire que vous faites appel déjà aux compétences de vos guides pour qu'ils fassent passer au mieux le message. Ce n'est pas uniquement une visite guidée de la ville de Toulouse en disant « vous voyez sur votre droite, il y a ça, sur votre gauche, il y a ça ».
Non, ce n'est pas dans l'esprit de dire « voilà, je ne sais pas, on suit les visites, on les vit ». Ne suivez plus les visites, vivez-les. Mmh. C'est vraiment le thème, puisque parfois nous avons des visites qui sont carrément organisées dans le sens où c'est carrément le public qui choisit le parcours. Donc je me prends un exemple tout bête sur Toulouse et ses énigmes. Nous avons un guide qui s'appelle Julien, je le nomme puisque c'est un concept qu'on a co-créé ensemble. En fonction des questions qu'il pose et des réponses qui sont apportées par le public qui est constitué en petites équipes, le parcours n'est pas le même.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Et donc on leur réapprend à se réapproprier le patrimoine au travers de petits détails d'architecture, d'urbanisme, de tout un tas d'autres éléments, on va dire, constitutifs de ce qui est devenu Toulouse au niveau patrimonial.
Donc c'est très interactif.
C'est très interactif et j'allais dire participatif.
C'est ça.
C'est le terme.
On est davantage dans l'expérience du voyageur, fait.
C'est expérientiel, complètement.
Ouais.
C'est dans le but de que tout un chacun s'y retrouve, même en n'ayant aucune connaissance, peu importe. On n'est pas là pour dire, nous, on détient la connaissance et on va vous la servir de façon pédagogue. On a ce côté pédagogue, on a ce côté véritablement d'aller savoir ce que l'autre sait, pour qu'à partir de là, on s'appuie dessus et pour développer le concept.
Alors vous avez créé ce concept un petit peu avant l'heure, puisque le tourisme d'expérience, c'est aujourd'hui ce que recherche le voyageur.
Ouais.
Vous, ça fait déjà quelques années en fait que vous l'avez
expérimenté. Oui, ça va faire quelques années qu'on a monté ce concept qui s'intitule « Les histoires de l'histoire ». Donc c'était toujours dans cet esprit de pouvoir mettre à la portée d'eux ce côté, si vous voulez, démocratiser un petit peu la culture et le patrimoine, puisque je disais tout à l'heure que ça appartenait à tout un chacun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos guides ont cette faculté d'intérêt, de passionner les gens, d'avoir envie de les suivre dans une espèce de quête, entre guillemets, puisque comme je dis souvent, nos guides, pour que ça soit un bon guide, c'est quelqu'un qui maîtrise une connaissance et qui va au-delà de cette connaissance. Je fais toujours le parallèle avec l'humour, puisque l'humour, c'est quoi ? C'est la maîtrise d'une langue. Et donc, on va toujours au-delà de la langue quand on fait de l'humour.
Tout à fait. Voilà. Et on fait passer les messages.
Alors
Stéphane, revenons sur votre parcours. Donc, vous étiez guide, c'est ça ? Vous avez commencé votre carrière dans le tourisme ?
Voilà. Donc, j'ai été guide en plusieurs langues, puisque moi, je parle l'anglais, l'espagnol, l'espagnol, l'italien, un peu l'allemand et l'hébreu.
Ouais, ouais. D'accord.
Donc j'ai pu exercer dans plusieurs pays, puisqu'en fait j'ai exercé bien évidemment en France, mais j'ai exercé aussi beaucoup à l'étranger, parce que c'était très formateur d'aller voir un petit peu, se confronter à d'autres cultures et à d'autres expériences et us et coutumes.
Donc vous étiez guide touristique, vous receviez des groupes pour leur présenter une ville,
une destination, un parcours, j'étais guide itinérant.
D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise ?
Alors tout simplement parce que j'ai répondu à une double problématique. La première, c'était d'être déclaré dans nos métiers. Et deuxième chose, on a des métiers à très forte saisonnalité. Ouais. On travaille d'avril à octobre, hein, grosso modo avec du groupe. Donc finalement, il fallait vivre toute l'année. Donc si on n'était pas déclaré, on ne percevait pas d'ACEDIC, donc d'indemnisation. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, je déclare les gens. Déjà, je me déclare moi.
Ouais,
je déclare les gens avec qui je collabore. Et ensuite, j'optimise la période dite faste durant laquelle on peut exercer son métier. Et en même temps, je me suis dit, mais je ne vais pas m'en arrêter là. Parce que finalement, on avait d'autres types de compétences. On va dire que le vecteur central des compétences, c'était les langues. Donc, vous pouvez imaginer derrière tout ce que
l'on
peut...
Tout ce que vous pouvez développer.
On peut développer, exactement.
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
Finalement, toutes les prestations qu'on a développées tournaient autour d'activités connexes, qui étaient la traduction, maintenant jusqu'à la traduction assermentée auprès des tribunaux, tout ce qui est interprétation de conférences et de liaisons, tout ce qui est voix off pour des films d'entreprise, des audioguides. Ouais. Donc, on est des créateurs de contenu.
Tout à fait.
Donc, créateurs de contenu dit qu'on sait rédiger des choses, on sait mettre à la portée. Donc, finalement, on a développé ce concept-là.
D'accord. Ça vous permet, vous, en tant que chef d'entreprise, de lisser votre activité sur l'année.
C'est ça.
C'est ça. Non plus de faire travailler des guides uniquement
ponctuellement.
Ponctuellement.
Aujourd'hui, on emploie à peu près 350 personnes à l'année.
Ouais.
Pas temps plein.
Pas temps plein.
Mais ceci étant, ça nous permet de... Alors, la particularité, comme je vous l'ai signalé au tout départ, c'est que nous travaillons sur tout le territoire. Donc, ça nous permet d'avoir une grosse capacité de répondre à un certain nombre de demandes, et même à la dernière minute. Et on travaille dans 60 langues aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Mmh. Alors, c'est-à-dire que vous travaillez aujourd'hui avec les particuliers et avec les entreprises.
C'est ça.
Vous êtes une agence, ce qu'on appelle une agence réceptive, c'est ça ?
On peut le nommer ainsi, puisque en fait, aujourd'hui, on travaille avec les particuliers, avec ce concept dont je vous parlais, les histoires de l'histoire. Ce type de concept nous permet de travailler après avec du B2B, donc de l'entreprise.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, on crée ce qu'on appelle des team boosters, des team building, c'est-à-dire de la cohésion d'équipe au travers de prestations. On customise, on rajoute des options qui permettent justement de créer ce produit touristique, entre guillemets. On fait ce qu'on appelle de la mise en tourisme. Et à partir de là, on développe des concepts, on développe des activités tout autour de ces visites qui étaient au départ des visites patrimoniales et qui petit à petit sont devenues des visites, on va dire, un petit peu plus... que j'appelle incentive plus stimulante.
Alors donnez-nous un exemple, Stéphane, par exemple, en entreprise, ce que vous pouvez faire pour mêler le team building et puis la culture, le patrimoine et notre pays, en fait.
Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Nous sommes en train de créer une soirée, alors je vais nommer l'hôtel, c'est la Cour des Consuls à Toulouse. Donc, c'est deux hôtels particuliers qui étaient un du 16e, un du 18e siècle, qui ont été réunis. Et dans cet hôtel, en fait, on va mêler à la fois la culture l'histoire de cet hôtel et un jeu énigme qu'on appelle un inside game, c'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu énigme où vous allez avoir des personnages costumés avec des acteurs, des figurants et on va créer en fait tout un scénario autour de l'hôtel, autour de cet écran.
C'est la bâtisse qui est
fabuleuse. Donc il y a entre autres un escalier classé 18e, donc en fait il y a vraiment des choses à faire et à voir à l'intérieur de l'hôtel. C'est pour dire aussi qu'à tout un chacun on a capacité de pouvoir fréquenter ce type d'établissement, même si c'est ça un 5 étoiles et qu'on se dit tiens c'est pas pour moi, si vous pouvez y accéder, il y a aucun souci, c'est un établissement qui peut recevoir du public. Et on a cette capacité, si vous voulez, de créer ces jeux, de créer ces prestations sur mesure, qui deviennent, on va dire, soit éphémères, donc c'est le temps d'une soirée. Ou soit qui devient une activité dite résidente, puisque ces gens-là reçoivent des séminaires. Et donc, à ce moment-là, ils ont une activité in situ, résidente, si je puis dire, qui permet d'être duplicable.
C'est un potentiel énorme pour votre entreprise.
Oui, parce qu'il y a des écrins comme cela. On a fait aussi des choses autour de l'abbaye école de Sorèze, avec le musée Don Robert, où on a créé aussi un jeu, une murder party. On a fait ça aussi au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, où on a créé, co-écrit avec Mortelle Soirée, un scénario
que
autour de l'éléphant.
Que nous avons reçu dans le goût d'entreprendre, d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Et donc, Mortelle Soirée, avec qui on a co-écrit ce scénario autour de l'éléphant Punch, donc, et au travers du livre de Francis Duranton, qui parlait du musée. musée, des anecdotes du musée. Donc c'est totalement dans notre ADN aujourd'hui de proposer ce type d'activité. Donc on reste dans le côté à la fois où on apprend des choses, mais en même temps ludique.
C'est ça, voilà, tout à fait. Avec, encore une fois, un terrain de jeu phénoménal.
C'est ça.
Que vous pouvez développer à l'infini sur des grands sites également en Occitanie.
C'est ça, on essaye petit à petit d'être sollicité, ou si c'est pas nous qui sommes sollicités, bien nous on est force de proposition, on va au-devant de prestations sur mesure que l'on peut créer pour différents types d'établissements. On a créé par exemple, je vous donne un autre exemple qui peut être concret, le musée du sucre et du chocolat à Cordes. On a créé des vidéos, un teaser, et en même temps une vidéo pédagogique du travail du sucre.
Ouais,
avec, c'était en 2015, je pense, c'était Gaëtan Fier qui était le parrain du musée à cette époque-là. Gaëtan Fier, donc, c'était un jeune pâtissier, champion du monde de pâtisserie et du travail du sucre. Et il a réalisé une œuvre sur 4 jours, parce que c'était énormément de travail. Et cette œuvre, aujourd'hui, elle est dans le musée.
Elle
et je
exposée.
Crois que cette année, il est à nouveau parrain du musée.
Ah oui, alors ça, c'est une visite à faire, par exemple.
Ça, c'est une visite véritablement à faire.
Voilà.
Donc, nous, on a été dans la création du scénario, dans la réalisation, dans la production. Et ça, ça nous intéresse fortement parce que ça met en exergue, en fait, les capacités et les savoir-faire régionaux.
Tout à fait, on l'a bien compris. C'est une belle mise en valeur du territoire.
C'est ça.
Vous l'avez compris, on va en être très, très positif, plus, là. Hein.
Complètement.
Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On parlera notamment d'Octobus.
Oui, avec grand plaisir.
À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Vous nous suivez, on vous emmène en balade avec Paydoc et Stéphane Grinfogel, le fondateur de cette agence, entreprise spécialisée dans le tourisme, qui propose des visites décalées en Occitanie. Jean-Marie Ferrenbach, vous êtes un grand voyageur et vous venez de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Alors on l'a remarqué Jean-Marie, dans les visites que propose Paydoc, on est un peu dans l'histoire vue différemment et dans une sorte de pédagogie un peu inversée, c'est-à-dire qu'on passe d'abord par l'expérience pour arriver à l'histoire.
Oui, puis j'ai noté une pédagogie ludique. Hein. Enfin, vous n'êtes pas seulement dictatorial et guide traditionnel. Hein. Non, tout à fait.
Non, vous avez tout à fait saisi.
Ouais. Oui, absolument. Oui, j'ai noté que vous aviez recours à une population extraordinaire de guides. Vous employez 350 personnes autour de vous. C'est impressionnant. Et comment ça se gère, 350 personnes dans votre domaine d'activité? Parce que ils sont tous à temps partiel pour vous.
Enfin, comment... Oui, ce sont des gens qui sont à la vacation. Donc, nous créons en fait ce qu'on appelle des contrats à durée déterminée d'usage, qui font référence en la matière dans nos métiers. Mais moi, je tiens à connaître tout un chacun. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un guide qui parle telle ou telle langue, qui a tel et tel type de compétences, moi je m'attache à l'humain. L'humain, c'est au centre de nos préoccupations aujourd'hui, puisque en connaissant les gens, eh bien, on est capable de savoir qu'on peut mettre à profit leurs compétences, même s'ils ne savent pas toujours ce qu'ils sont capables de produire. Ben, nous, c'est à notre réflexion de mener avec eux la capacité de dire, voilà, vous avez toutes ces compétences-là. C'est pas qu'on fait des bilans de compétences, mais pas loin finalement, puisqu'il faut que nous soyons des bons, impresarios, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on met à profit un certain nombre de personnes pour leurs compétences, pour leur personnalité, beaucoup, c'est la personnalité qui joue, et au-delà de la connaissance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la connaissance qui m'intéresse, c'est surtout la façon dont elle est véhiculée.
Et c'est ça aussi être un bon manager?
Oui, a priori, oui.
Chef d'entreprise.
C'est vrai, mais je l'ai appris sur le tas. J'ai pas suivi de formation spécifique. Je pense que ça devait faire un petit peu partie de moi. Oui. Et de détecter, finalement, j'ai toujours été quelqu'un qui détectait des talents, en fait. Ça a été quelque chose qui est...
Vous pourriez faire The Voice ?
Alors, peut-être pas, parce qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si je suis assez mélomane, et en même temps, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité-là. Ceci étant, aujourd'hui, je sais ce que peut attendre le public. Okay. Je suis très sensible à ça. Je fais énormément de veille de ce qui se passe, de comment, quelles sont les tendances, comment nous adapter, faire en sorte d'articuler en fait tout ça, et qu'à un moment donné, il en sorte véritablement quelque chose de très concret.
Jean-Marie, notre question.
Oui, alors j'imagine, pour finir sur votre population de guides, j'imagine que vous avez des catégories de guides extrêmement variées et que vous jouez avec cet ensemble d'une façon très subtile, parce que vous dites qu'il faut connaître chacun de ces guides, 350 personnes, il faut pouvoir les sentir, les positionner par rapport à un marché client. Je trouve que c'est un exercice de chef d'orchestre assez complexe.
Hein. C'est un exercice, mais qui est assez passionnant, parce qu'on a affaire à des personnes, hommes et femmes, qui sont extrêmement variées, ce qui représente la nature humaine. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, je pratique des gens qui ont des nationalités différentes, avec des us et coutumes différents, et qui sont enclins à développer aussi comment dire, des concepts de visite en fonction un petit peu de leur propre personnalité, de leur propre référence. Donc ce qui fait qu'en fait aussi on s'attache à comprendre qui ils sont, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont capables d'amener au sein de la structure.
C'est ça, ouais.
Et en même temps, ce sont des électrons libres. Donc c'est vrai que ce management n'est pas toujours évident, parce qu'il faut, arriver à jongler entre des gens qui sont, on va dire, autonomes, j'allais presque dire incontrôlable dans une certaine mesure, mais et en même temps de dire voilà, on les met dans le sens de la marche, hein, on est là pour créer un espèce de chemin de fer entre eux et nous, de manière à ce qu'on aille vraiment sur une voie et que cette voie mène à profit justement tout leur implication et leur investissement dans le développement de visites.
Et voilà, c'est ça, et l'image aussi de votre entreprise.
C'est l'image qui est véhiculée, qui est lourde, qu'il faut faire en sorte d'aller toujours dans le même état d'esprit. Donc certes, je parlais d'ADN tout à l'heure, on a une ligne de conduite, on a une ligne dite éditoriale, si je puis dire, puisqu'on est à la radio, on peut parler de ligne éditoriale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de suivre ça, de se respecter. On a une philosophie, on a une charte aussi qualité au sein de la structure que les gens ils ont pris connaissance et que s'ils s'y reconnaissent, bah, finalement, c'est comme un règlement intérieur dans une société lambda.
Ça, hein.
Et cette charte nous sert véritablement à nous appuyer sur ces valeurs-là. Donc c'est au travers de ces valeurs que si on se reconnaît, bah, on est capable de collaborer.
Comment vous voyez évoluer le tourisme à Toulouse? Alors c'est une large vaste question dans les années qui viennent, puisque un gros travail tout de même a été fait hein, ces dernières années sur le tourisme à Toulouse. Avant, on venait surtout pour les affaires. C'est un petit peu moins le cas maintenant.
Alors, c'est moins le cas. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est moi qui suis à l'instigation du City Tour Toulouse. Mm-hmm. Vous savez, le petit bus cabriolet rouge
ouais.
que vous avez certainement vu passer en ville. Ben, j'ai créé en fait ce concept qui n'existait pas à Toulouse. Alors, je ne l'ai pas créé. C'est une innovation puisqu'il existe ailleurs. Hein, il existe dans d'autres grandes villes en France. Simplement, moi, j'ai voulu créer ce produit parce que, pour dire que Toulouse était une vraie destination touristique. Et quand on a créé le commentaire au départ, on a fait un commentaire dit Comté. Donc c'est une jeune fille qui était, c'est ça le scénario, hein, c'est une jeune fille étudiante à Toulouse qui raconte sa ville. Donc c'est pas comme vous disiez tout à l'heure, à gauche vous avez ci, à droite vous avez ça. Non, elle va raconter les lieux qu'elle apprécie, pourquoi elle les apprécie, elle va même parler quelques mots occitans. Donc ce commentaire est fait en 8 langues. Bien évidemment, c'est pas de la traduction littérale. Hein. Mm-hmm. Derrière, c'est de l'adaptation, de l'interprétation.
C'est un jeu, oui.
Mais dans 8 langues, c'est-à-dire avec les références de chaque nationalité, de chaque public, entre guillemets. Et quand on a créé ça, c'était aussi pour dire que Toulouse donc, était une vraie destination touristique. Et j'ai développé d'autres concepts de visite, justement pour dire que Toulouse, ben, il faut quand même savoir que c'est le plus grand centre médiéval le mieux conservé d'Europe. Peu de gens le savent.
Oui, c'est vrai.
Peu
on
n'en
parle pas.
Ouais. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est une réalité. Et puis nous avons des monuments UNESCO. Il faut aussi le dire, c'est quand même une marque assez importante. En plus, Toulouse candidate aujourd'hui à être UNESCO, comme l'a été Albi ou Carcassonne en son temps. Et c'est vrai que ça, justement, donne un sacré coup de projecteur à la destination.
Tout à fait.
Alors certes, on a des monuments aujourd'hui, on a le canal du Midi, bien évidemment, qui est UNESCO, mais on a aussi la basilique Saint-Sernin, qui est sur les chemins de Saint-Jacques, de Compostelle.
Ouais. Jean-Marie, une autre question.
Je rebondis sur l'évocation que vous avez faite d'une charte qualité. Je crois que c'est très intéressant pour nos auditeurs de comprendre ce que ça peut représenter, une charte qualité dans une entreprise. Et dans votre cas, quelles seraient par exemple les valeurs que vous nous souligneriez comme faisant partie de l'essentiel de votre esprit d'entreprise ?
Alors, les valeurs essentielles pour moi sont, comment dire, le respect de chacun, de tout un chacun, la déontologie. Ça, pour moi, c'est une valeur intrinsèque à nos métiers. C'est-à-dire que quand on développe des concepts de visite, des prestations sur mesure, on fait en sorte qu'on poursuive une collaboration pérenne. Et ça, dans la charte, c'est vraiment inscrit. C'est un des piliers fondateurs de la charte aujourd'hui, de manière à ce qu'on dise, voilà, si vous vous donnez, vous vous impliquez, vous vous investissez, vous aurez un retour. C'est pas en vain, c'est pas un guide qui va être interchangeable. C'est-à-dire que moi j'appelle les guides par leur prénom, on connaît tout un chacun, on sait qui ils sont, on s'attache à de savoir où ils en sont, dans quelle mesure on peut mieux collaborer. Donc j'allais vous dire, aujourd'hui la charte revêt tous ces critères-là, tous ces paramètres-là, qui nous permettent justement de travailler en bonne intelligence et de travailler dans une dynamique de synergie. Ça c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'un plus un égale 3 et non pas 2, parce qu'effectivement on met en commun un savoir et des savoir-faire. Et donc ça, c'est véritablement ce qui fait que ça constitue aussi, de la part de nos intervenants et de tous nos guides et nos accompagnateurs, bah, une dimension humaine, une dimension de proximité. Cette dimension-là, et c'est vrai que, je veux dire, le pilier, c'est bien sûr l'humain. De toute façon, on travaille avec de l'humain. Même si tout à l'heure, je vous parlais d'audio guide, il a fallu qu'à un moment ou un autre, on travaille avec de l'humain.
C'est ça,
c'est pas tout mécanisé, c'est pas tout...
C'est pas des robots.
Ce ne sont pas des robots. Voilà, et tout ça, pour nous, c'est très important pour créer justement les meilleures conditions possibles d'une collaboration pérenne.
Quel est le truc le plus fou que vous ayez organisé ?
Quelque chose de plus fou que nous ayons organisé. Alors, en fait, beaucoup de gens me connaissent et ils savent qu'on est tout le temps en train de phosphorer, de se réinventer, de faire en sorte de dynamiser en fait, les offres locales. Alors, ce qui est de fou, entre guillemets, véritablement, c'était au départ, et j'en parlais tout à l'heure, le City Tour Toulouse. On nous a pris pour des fous, au départ, en nous disant ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, j'ai d'autres projets dont je pourrais juste évoquer deux petites choses. Et c'est ceux-là qui vont devenir fous parce que il y en a un en particulier qui me tiendrait à cœur. Alors, je le révèle et peu importe. Hein, c'est d'avoir un bus amphibie. Donc, un bus qui aille sur l'eau et sur terre et qui soit capable justement de faire visiter à la fois le canal du Midi et la Garonne, qui sont les deux cours d'eau que nous avons entre autres à Toulouse, et qui font que justement, ça va amener une autre dimension encore à la ville. Et j'ai d'autres projets de bus vintage des années 50 avec des visites costumées, théâtralisées autour des années 50 parce que ben voilà, c'est aujourd'hui je parlais de tendance, c'est tendance,
c'est
tout même le mobilier revient années 50, les vêtements années 50 reviennent, etc. Donc ben on s'inscrit totalement dans cette dynamique là et pour moi c'est ça être un petit peu fou, c'est-à-dire de partir de quelque chose qui n'est pas une vraie demande, il y a pas forcément, nous on crée les conditions pour qu'elles le deviennent. On essaie de se dire, ben, si on est force de proposition, si on crée du produit, du service, je pense qu'à un moment donné, on crée le besoin.
Et en collant à la tendance, effectivement, puisque c'est ce que veut aujourd'hui le visiteur.
Totalement.
Découvrir et s'amuser.
Alors, ce que vous offrez aujourd'hui attire plus des générations jeunes, moyennes, d'âge ou des anciens, ou un peu de tout Quelle est la situation par rapport à l'interface de ceux qui s'adressent chez vous?
Alors, on a la chance que finalement, ben, on intéresse le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intergénérationnel. Souvent, justement, on a des familles. On a aussi bien les grands-parents que les parents et que les petits-enfants qui viennent assister à nos visites. Donc, on en a pour un petit peu tous les goûts, si je puis dire, puisque chacun va y retrouver un intérêt. Encore une fois, c'est cette capacité qu'ont les guides aussi à s'adapter à des différentes typologies de public qui fait que, justement, tout un chacun peut y trouver un intérêt. Et c'est quand je parlais tout à l'heure de mettre à la portée d'eux, ben c'est totalement ça. Même si c'est une thématique qui paraît, je ne sais pas moi, si je vous parle de la résistance ou si je vous parle d'autres types de visites, par exemple à la... comment dire le, allez mince, quand c'est à la Toussaint, on fait visiter par exemple le cimetière de Terre-Cambade, ben on peut y trouver un intérêt pour la plupart des gens.
Il y a un public aussi pour ça.
Il y a un public,
bien sûr.
Donc c'est le Terre-Cambade que j'appelle communément le Père Lachaise toulousain, et qui fait qu'en fait ben, on est toujours dans une dimension véritablement où on met les gens dans un certain type d'atmosphère, qui fait que finalement ben, ils sont happés par le projet, ils sont dans l'expérience. Et donc, finalement, on peut répondre et parler à tout un chacun. On n'est pas obligé de dire c'est destiné uniquement à ce type de public et à cette tranche d'âge-là.
Et vous vous adressez aussi aux Toulousains ou aux gens de la région ?
Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, les gens et les Toulousains, aujourd'hui, ont besoin de se réapproprier leur patrimoine, de se réapproprier d'où ils viennent et pour savoir où ils vont, tout simplement. Donc, on a beaucoup, beaucoup de locaux. Effectivement, qui viennent, mais même des gens qui nous vous disent souvent, je connais Toulouse, mais finalement, bah, je me trompe parce que finalement, je ne connaissais pas si bien que ça. Et vous m'avez fait voir des choses que peut-être je passe devant tous les jours dans telle ou telle rue, mais j'ai pas observé ça. Donc on est dans un monde de l'image aujourd'hui, et on n'a jamais aussi, on ne sait même plus la décrypter en fait.
Ouais, c'est ça.
Et c'est à nous à mettre justement en exercice. Je prends souvent l'exemple. Vous aviez les gens au Moyen-Âge, ils savaient pas lire. Et sur les tympans des églises ou sur les chapiteaux, vous aviez des chapiteaux historiés qui racontaient une histoire biblique ou une histoire. Et c'est vrai que ces gens-là, ben, ils savaient mieux lire ces chapiteaux, mieux lire les tympans d'église que nous aujourd'hui. Et c'est quand même l'ancêtre de la bande dessinée, avec des cartouches, etc. Donc finalement, ben, on est là pour mettre à profit tout ça et leur expliquer que finalement, c'est pas si différent que ça, le Moyen-Âge de notre époque actuelle.
Combien coûte une visite pour un particulier ?
Alors ça oscille entre 9 euros et 18 euros. Ça dépend la visite, ça dépend la thématique, ça dépend pense qu'il y a aussi, parce qu'on adore ça, et moi je suis friand de ça, des dégustations de produits locaux. On a des, petites, des petits cadeaux, des, alors j'appelle ça des goodies, mais c'est des petits cadeaux qui sont, on va dire, l'ADN de la destination. Soit c'est des produits à base de violette, à base de pastel. Alors ça peut être soit comment dire, des étoffes qui ont été teintes, mais ça peut être aussi des cosmétiques.
Nous sommes un peu pris par le temps, on aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Juste en un mot, Octobus, ce sont des bus qui circulent, donc au départ de Toulouse, vers les grands sites.
C'est ça. Alors, on a fait des excursions au départ de Toulouse, en français et en anglais. Donc, l'avantage, c'est que les gens peuvent entrer dans cet univers-là. Nos guides sont des conteurs, ouais. Ils racontent des histoires. Ils vont aller sur les destinations comme Albicorde et Carcassonne, à la journée. Ça, on fait ça de juin à septembre. Tous les week-ends. Et en juillet-août, on rajoute les jeudis et les vendredis. Donc, on fait deux fois Albicorde et deux fois Carcassonne. Et sur place, on a soit on fait la visite guidée avec les entrées sur les différents sites, soit on a possibilité d'avoir un jeu. On a créé une carte touristique dans laquelle on a implémenté tout un tas de points à aller faire si on a envie de faire ça en autonomie. Mais on a un jeu énigme sur place, qui est soit ce qu'on appelle une quest, un urban game qui est un jeu énigme que l'on a fait à Cordes et à Carcassonne, et donc les gens ont possibilité de découvrir autrement, on parlait de visiter autrement,
c'est ça.
Et bien ça leur donne l'opportunité de faire le jeu en famille. Soit, donc c'est en français et en anglais, comme je vous le disais, hein, on le fait en bilingue, parce qu'on a des publics assez variés. Donc comme ça, chacun peut s'y retrouver. Et éventuellement, on a aussi, si on a beaucoup d'hispanisants, de le faire aussi en espagnol, hein, on a possibilité. Ceci étant, Octobus, ça va faire la troisième saison que nous faisons cette activité-là, et on va la développer dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'en fait, tout un chacun aura possibilité de s'y retrouver en disant « J'ai déjà le moyen de transport, de locomotion pour me rendre sur les sites, et ensuite j'ai possibilité soit de découvrir la visite avec un guide, soit avec un guide animateur qui me fera la découverte ludique au travers de ce jeu énigme. »
Alors parfait, vous êtes un vrai guide de voyage. Merci Stéphane, on vous retrouve sur votre site internet pidoc.com.
Oui.
Merci à vous Jean-Marie Ferenbach de nous accompagner pour Le Goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous écrire, c'est très simple, contact@radioprésence.com et retrouvez-nous également sur YouTube, sur la chaîne du Goût d'entreprendre.
Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.